En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Dans le cadre de la séance de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, prononcée le vendredi 13 octobre 2006, le professeur honoraire de langue et littérature copte à l'Université de Genève, Rodolphe Kasser, est venu s'exprimer sur l'Évangile de Judas, damné, perdu, retrouvé, mais très maltraité. Retrouvons-le en séance, placé sous le patronage de Jean Leclan, secrétaire perpétuel.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie pour votre hospitalité et je suis heureux de pouvoir vous parler de l'Évangile de Judas dont vous avez maintenant une édition française faite par Flammarion. L'Évangile de Judas, damné, perdu, retrouvé, mais très maltraité. Maint penseur écrit dans l'espoir que par l'écrit sa pensée lui survivra. Garantie précaire, surtout dans l'Antiquité où les copies étaient faites en petit nombre à la main. Tant d'œuvres anciennes ont disparu victimes de cette pénurie. Parmi elles, le malchanceux évangile de Judas, pensait-on encore récemment. Or, miracle, il vient de réapparaître. Et ici, je vous prie de me permettre d'ouvrir une parenthèse. Il vient de réapparaître dans un manuscrit copte du IVe siècle de notre ère, particularité qui, loin d'être futile, n'étonneront nullement les chercheurs familiarisés avec le rôle exceptionnel qu'ont joué dans l'Antiquité tardive les idiomes coptes en tant que charnière vitale pratiquement inévitable entre la littérature grecque contemporaine diffusée dans le large espace international de l'Orient méditerranéen, très vaste mais englobant des terres dont le climat était presque partout défavorable, trop humide à la conservation des manuscrits enfouis dans le sol. Les idiomes coptes charnières entre cette littérature et les nombreuses langues indigènes non grecques. L'une d'entre elles, le copte, avec ses multiples idiomes, disposant d'avantages défiant toute concurrence, allait jouer dès lors un rôle prééminent pour l'information de la recherche moderne. La base linguistique copte est clairement l'égyptien, déjà bien attestée sous une forme plus archaïque par des centaines de textes de la civilisation des pyramides. Mais un égyptien tardif, évolué, adapté à son époque, libéré du carcan pittoresque mais indigeste de ses quelques 800 graphèmes. L'alphabet copte classique avec ses quelques 30 graphèmes n'est autre que l'alphabet grec, complété par quelques signes complémentaires. Un égyptien tardif dont le vocabulaire de base reste celui de l'Égypte autochtone, mais qui s'est considérablement enrichi par l'adoption massive de termes helléno-scientifiques, de l'administration, du droit, de la religion, de la philosophie, de la médecine, etc. Dans l'espace culturellement si fertile qu'est l'Orient méditerranéen, rares sont les manuscrits grecs ou latins survivants, tandis que les manuscrits coptes en terre copte fourmillent, parce que, sauf dans le delta, le sol égyptien, invariablement sec par le climat que lui a imposé la nature, conserve étonnamment bien les vestiges organiques et le papyrus, le parchemin, en font partie. Conclusion, vive la documentation copte. Elle nous est indispensable pour connaître les racines de notre culture actuelle et je referme ma parenthèse. Un manuscrit copte de l'évangile de Judas surgit donc inespéré. L'existence de cet évangile au titre sulfureux n'était connue de nos savants que par la mention qu'en avait faite Irénée, évêque de Lyon, en 180, Adversus Hérèses, 1.31, traité combattant avec vigueur les hérésies contemporaines. Or, Irénée avait-il même lu l'ouvrage qu'il combattait si prestement ou s'était-il contenté du rejet que suscitait en lui un titre aussi scandaleux? Les chercheurs modernes étaient terriblement impatients de le savoir. Zurich, ce fameux 24 juillet 2001, lieu fameux, date fameuse, inscrit par le destin, exactement là où il le fallait, au moment le plus favorable, à faire jaillir de cette rencontre un processus salvateur considéré peu de temps auparavant comme irréalisable. Sommairement donc à cette date, en ce lieu fatidique, il m'a été donné de voir pour la première fois ce manuscrit abominablement maltraité, entre autres par certains chercheurs trop pressés de le feuilleter, afin d'être les premiers à le lire. Le manuscrit que, après l'avoir pressuré ou vu pressurer, chacun s'était résigné à croire définitivement perdu, anéanti. Il m'a été donné de le voir proche de l'anéantissement et de pouvoir néanmoins procéder au sauvetage physique de ce qui en subsistait encore. Sauvetage indispensable à sa documentation photographique, puis à l'établissement de son texte, enfin à sa traduction qui, après une si longue attente, a permis à la science de réfléchir à son contenu philosophico-religieux sur une base objective, qui a permis de confronter le message caché jusqu'ici du texte apocryphe à celui que, depuis près de 2 millénaires, diffuse le Nouveau Testament. Judas le criminel. Le christianisme est par essence une religion du livre, et ce livre pour nous c'est la Bible, sacrée, infaillible. Pour tout croyant voulant fonder sa foi sur le Nouveau Testament, Jésus-Christ a été trahi, livré à ses persécuteurs par un des plus importants parmi ses disciples, Judas. Trahi, livré, paradis doux en copte, paradis d'onaï en grec. Judas est donc un criminel exactement l'opposé du disciple exemplaire loué par l'évangéliste gnostique. On s'en doute, une telle confrontation mettant face à face des esprits profondément convaincus ne pouvait être faite sans éclat violent. On n'inverse pas sans dommage les jugements de valeur qui ont traversé inébranlablement les siècles. Judas le criminel ne peut pas devenir Judas le héros dans la plus plate indifférence. D'abord, la condamnation progressive. Dans les diverses couches chronologiques du Nouveau Testament, la condamnation de Judas apparaît de manière variable et divers chercheurs, français en particulier, l'avaient remarqué, Pagnol, Mauriac, Claudel, de manière variable et progressive. La première couche chronologique est celle des années 52 à 60, celle des épîtres pauliniennes, et même dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11, versets 23 à 26, il n'est pas question de Judas nommément, ni comme livreur accomplissant la tâche qui lui a été confiée, à lui seul, par qui, dans quel but, encore moins comme traître présumé, dans le seul passage où Paul évoque le premier repas eucharistique. Deuxième étape, années 68 à 70, avant la destruction du temple de Jérusalem, le plus ancien des évangiles synoptiques est celui de Marc. Il mentionne Judas d'une manière très sobre, avec cette simple remarque, celui-là même qui le livra. Troisième étape, début de la troisième étape, année aux environs de 80. Plus le temps s'avance et plus les qualificatifs accompagnant le témoignage se font plus soupçonneux, plus malveillants. Matthieu chapitre 10, verset 4, équivaut certes à Marc chapitre 3, verset 19, mais plus loin le ton change. Et devant l'acte de gaspillage commis par la porteuse de parfum qui déverse ce trésor coûteux sur Jésus, les disciples déplorent cette perte financière inutile, et c'est apparemment en conséquence du scandale causé dans leur groupe par cet incident que Judas prend l'initiative d'aller vers les grands prêtres et de leur proposer très crûment de leur livrer Jésus. Un peu plus tard, cependant, selon Matthieu, chapitre 27, verset 3, constatant que son plan a lamentablement échoué, désespéré par cet échec, Judas tente d'abord d'annuler son acte en rendant au prêtre les 30 pièces d'argent pris de sa livraison, mais rien n'y fait, l'acte criminel ne peut plus être annulé, les prêtres refusent la restitution des 30 pièces, en sorte que Judas, auquel cet argent fait maintenant horreur, le jette dans le temple, puis il se suicide par pendaison. Toujours dans la même catégorie de témoignages des environs de l'an 80, nous avons l'évangile de Luc, et son second tome qui est « Les actes des apôtres ». Dans la liste des apôtres invités par Jésus pour l'accompagner dans sa carrière, se trouve tout à la fin aussi Luc 6, 16, Judas, mais traité non de « livreur », qualificatif ambigu, mais de « prodotès », signifiant vraiment « traître », sans ambiguïté. Plus loin, Luc 7, 37, etc., Luc présente la scène de l'onction sans liaison avec Judas ou avec les autres apôtres. Mais quand il évoque la décision subite et apparemment non motivée en vrai acte de folie de vendre Jésus à ses ennemis mortels, l'évangéliste ne peut la définir mieux que par une intrusion directe de Satan dans le cœur du misérable traître. Au moment de l'arrestation, comment Matthieu, Judas fait reconnaître Jésus par ses persécuteurs, par un baiser, signe d'infâme hypocrisie. La mort de Judas par suicide est présentée dans les Actes des Apôtres, second tome de Luc, au chapitre 1er, versets 16 à 20, mais curieusement sans geste de repentance, sans pendaison, et cela sur un ton dur et sec et sans compassion. L'acte de Judas, trahison d'un maître et ami, a été de la pire espèce, et la fin du scélérat est quoique juste tout aussi horrible. Il crève littéralement, son corps éclate, ses boyaux ensanglantés se répandent sur le sol. Tel qu'il se produit aux environs des années 95, le témoignage de l'évangile johannique est celui de l'évangile canonique le plus tardif. Dès le début, on sent combien le futur traître est odieux à l'évangéliste, odieux et digne de son mépris. Au chapitre 6, versets 70 à 71, Jésus fait savoir que c'est l'un de ses amis les plus intimes qui le trahira. Il le sait, mais il ne tente pas d'arrêter son complot en le dénonçant. Chapitre 12, versets 3 à 4, scène de l'onction. Là, c'est Judas lui-même, dévoré par sa passion financière, qui dénonce le gaspillage en tant que trésorier du groupe, mais trésorier voleur, comme le dénonce l'évangéliste. Trésorier pillard, qui ne se gêne pas d'utiliser pour lui seul les finances communes. Chapitre 13, verset 2, le diable entre dans le cœur de Judas pour l'inciter au crime. Chapitre 13, verset 26, on en est à la scène finale et Jésus annonce en termes ambigus que l'un des convives, donc l'un de ses amis, le trahira. Chapitre 6, verset 71. Puis il pousse Judas à sortir de la salle en faisant allusion en termes obscurs à une mission urgente qu'il lui a confiée. « Ce que tu fais, fais-le vite », ce qui peut s'interpréter de nombreuses manières différentes et aucune d'entre elles ne peut s'imposer indiscutablement. Nous voilà donc arrivés au pied du mur. Le Judas néo-testamentaire, malgré quelques variations intéressantes, reste incompatible avec le Judas gnostique, créé précisément pour réhabiliter le Judas monstrueux que nous a légué la tradition chrétienne classique. Au fond, l'excitation religieuse, blasphème ou non-blasphème, qui se dégage de cette opposition de principe, sous-tend une analyse qui tourne autour de l'interprétation du terme de « trahison » utilisé à propos de cet épisode scabreux de la vie de Jésus, la livraison finale du héros ayant entraîné sa mise à mort. Or, la trahison est un viol. Ceux pour qui toute tentative de réviser la condamnation pratiquement unanime s'abattant sur Judas est une entreprise illusoire et inutile, tant la cause du présumé traître paraît limpide, ceux qui lui refusent peut-être par paresse intellectuelle le luxe d'un réexamen minutieux, cela ne devrait-il pas réexaminer d'abord le concept tout général de trahison dans son acception la plus large, et voir s'il est applicable aux circonstances dans lesquelles Jésus est tombé ou s'est laissé tomber entre les mains de ses ennemis mortels. Or, ce concept implique un viol. La victime de la trahison a fait confiance au traître qu'il a grugé, lequel a violé cette confiance en entraînant sa victime dans une direction qu'elle n'avait pas voulue. On peut donc considérer que le Judas des évangélistes Matthieu, Marc et Luc est un traître caractérisé, cheminant dans sa voie solitaire. Mais tel n'est pas le cas du Judas plus ambigu présenté par l'évangéliste Jean, puisque selon ce dernier, Jésus s'est quelque peu compromis avec lui. Il a démasqué très tôt son traître, traître entre guillemets, chapitre 6, verset 64 et suivant, toutefois sans prendre aucune mesure de nature à rendre impossible la trahison projetée. Attitude indulgente que, à la limite, il serait légitime de considérer comme consentante, même complice. Trahir le héros pour le défaire est l'annulation de la défaite. Livrer un héros contre son gré à ses ennemis mortels, c'est bien lui infliger une défaite par une conspiration faisant usage de moyens déloyaux pour éteindre sa voix, briser sa carrière. Ainsi semble l'avoir pressenti, puis ressenti instinctivement les 11 condisciples de Judas. Mais non Jésus lui-même en cette affaire. La mort de leur maître aura certes été interprétée par eux comme une défaite, oui, mais une défaite de Dieu lui-même et une défaite passagère qui sera effacée le plus tôt possible et surclassée par une éclatante revanche, la résurrection glorieuse de la victime. Un déshonneur divin lavé, noyé dans le triomphe tardif mais définitif du bien sur le mal. Voilà ce qui pouvait en être du point de vue des disciples et qui toutefois ne semble guère confirmé par l'ensemble du texte néo-testamentaire lui-même. L'attitude du ressuscité et ses discours aux apôtres n'ont pas le caractère revanchard et triomphaliste qu'on pourrait attendre dans cette hypothèse. ses discours restent étonnamment modestes et discrets, plus encore qu'ils ne l'étaient avant la passion du Sauveur. Le plein triomphe divin viendra plus tard, peut-être beaucoup plus tard, lors du second retour du Christ sur la terre, voir Matthieu 16, 3 et ses suivants. On doit donc s'y résigner déjà par ces constatations préliminaires, et avant même d'avoir abordé le texte de l'évangile de Judas lui-même, l'opposition du Judas néo-testamentaire fondée sur un ensemble de documents qui se sont voulus historiques, au Judas gnostique fondé sur une documentation que ses auteurs ont voulu garantie par une inspiration surnaturelle, l'opposition du traître désigné par plusieurs dénonciateurs au possible héros chanté par divers récits romancés n'est donc pas aussi simple et évidente qu'on pourrait le supposer au premier abord. Alors nous en venons maintenant à la parole qui est donnée à Judas le gnostique lui-même. Il conviendra donc pour faire progresser notre enquête de donner maintenant la parole au Judas gnostique dont les discours jusqu'ici inconnus sont réapparus récemment dans les pages 33 à 38 à 58 du codex Tchakos auquel ils ont donné l'essentiel de sa valeur et sa réputation de découverte exceptionnelle comparable à celle des codex gnostiques de Nag Hammadi. L'origine de ce témoignage peut être datée prudemment du milieu du deuxième siècle de notre ère, origine donc postérieure de trois quarts de siècle environ par rapport aux évangiles canoniques. On ne s'étonnera pas d'y trouver l'essentiel du fond commun de la théologie gnostique, suivant une technique didactique dont les auteurs de textes gnostiques font souvent usage. L'évangile de Judas est composé surtout de dialogues, 85% au sens le plus large du terme. Jésus, rencontrant ses interlocuteurs, les interroge, puis leur répond, rectifiant ensuite éventuellement leurs réponses. Ou encore, il est interpellé par eux et réagit. On remarquera dans la succession de ces dialogues une progression caractéristique. Les premiers problèmes abordés sont assez banals, permettant aux interlocuteurs du maître d'exprimer leur opinion sans trop limiter leur temps de parole. Mais plus les thèmes deviennent difficiles, plus ces interlocuteurs sont réduits au silence, un silence à la mesure de leur incompétence. En sorte que certaines sections du texte sont des dialogues qui sont des monologues en fait. Monologues en fait de Jésus qui, accaparant la parole, expose systématiquement et sans être interrompu la révélation qu'il a décidé de faire à tel interlocuteur privilégié, Judas en l'occurrence. D'une manière plus générale, la remarque stylistique suivante mérite d'être faite. Bien que cet apocryphe culmine dans la livraison de Jésus à ses futurs bourreaux, et qu'il nous présente donc un Jésus antérieur à sa mort corporelle, mort entre guillemets bien sûr pour un gnostique, il le fait en une atmosphère rappelant beaucoup plus les relations entre Jésus et ses disciples après sa résurrection qu'avant cet événement capital pour la théologie chrétienne. On y observe un maître ne vivant qu'épisodiquement avec ses élèves et non en communion de communauté vivante. Un maître évanescent et fantomatique, apparaissant à l'improviste parmi les douze avec lesquels il ne vit guère et disparaissant ensuite d'une manière tout aussi mystérieuse. Les douze sont présentés là, surtout après que Judas s'en est détaché, prenant ses distances avec eux, comme une communauté assez misérable et médiocre, survivante à tâtons sans véritable berger, ayant grand besoin de l'intervention de Jésus, mais sans qu'on puisse espérer que cette intervention soit généralement assez efficace pour assurer leur salut. On abordera maintenant le plan logique de cet évangile ésotérique. Ce plan peut être perçu de la manière suivante, donc page 33 à 58 du Codex Tchakos. On y trouve une introduction, page 33, narrative, puis une longue section médiane, page 34 à 57, doctrinale, composée de dialogues et de dialogues monologues. Enfin, une conclusion, page 58, à nouveau narrative. Le but complet de l'ouvrage semble être la constatation de la déficience navrante, spirituelle et morale, de la communauté se réclamant de Jésus. Puis l'espoir d'envisager sa réforme par l'intermédiaire de Judas, disciple exceptionnellement doué que Jésus a mis à part dans ce groupe pour l'instruire de mystères inaccessibles à ses collègues. Judas est appelé à succéder ainsi à Jésus dans ce rôle de révélateur-instructeur après le départ de ce dernier vers les sphères célestes, étant libéré de la prison de son corps terrestre et matériel. Ce qui laisse à penser que tôt ou tard, Judas aura à son tour un successeur en son rôle de sauveur, quand un autre ami fidèle et compréhensif aura provoqué son ascension vers les sphères célestes en sacrifiant physiquement son corps matériel. Ainsi de suite, et tout cela dans un environnement céleste et astral où étoiles et visions multiplient leurs interventions. Entre cette introduction et cette conclusion, 10 chapitres encadrés par cette introduction et cette conclusion se présentent. Et c'est très intéressant, très important de les suivre. Les 10 chapitres que nous distinguons dans la longue section médiane et doctrinale de cet évangile sont délimités, selon nos observations, par 2 sortes de signes distinctifs. La fin des 4 premiers est marquée par un mouvement subit de Jésus qui soudain interrompt son contact avec ses interlocuteurs pour le reprendre un peu plus tard. La fin des 5 épisodes suivants n'est plus une interruption physique mais logique. Jésus a entrepris pour instruire Judas l'exposition, révélation longue et complexe, exposée qu'on subdivisera commodément, comme quand on pourra y déceler un important changement thématique. Le tout est traité sur un ton non pas agressif, mais irénique, où intervient fréquemment le verbe sauber, que certains traduisent volontiers par rire, d'un rire méprisant et moqueur, mais où nous voyons plutôt le sourire amical avec lequel un adulte raisonnable accueille et tente d'infléchir sans drame quelques manifestations enfantines irréfléchies. Alors, l'introduction, les 4/5 de la page 33, elle débute par une phrase assez mystérieuse, complexe et difficile à traduire, entendant vraisemblablement résumer le contenu et le but de l'ouvrage. Logos etep, unta apophasis, unta Iesus, chage, men Judas, Iscariotes, un hetef, un shmun, un hou, hate, un shomunt, un hou, empatef, un pasca. Le discours ou compte rendu secret de la déclaration solennelle que Jésus a prononcé en dialoguant avec Jésus, avec Judas, l'Iscariote, en 8 jours, 3 jours avant qu'il ait fait la Pâque. Cette introduction attire l'attention sur le fait que, quelle que soit la multiplicité du message exposé plus loin, il a son point culminant dans une déclaration capitale faite par Jésus à Judas, ce qui justifie le titre éventuellement secondaire donné à ce traité. Déclaration datée, d'une manière alambiquée, laissant entendre que son exposé a duré 8 jours, 8 jours avant, ayant précédé les 3 jours, particulièrement riches symboliquement de la Pâque elle-même, sur lesquels est focalisé l'essentiel du message du rédacteur. Ensuite, le ministère salvateur de Jésus est présenté d'une manière générale. Chapitre 1. Jésus rend visite à ses 12 disciples, Judas y compris, en Judée, où il les trouve occupés à prononcer l'action de grâce, l'Eucharistie, sur le pain. En souriant, Jésus leur laisse entendre l'inutilité de ce rite, ce qui crée en eux un sentiment d'insécurité et provoque leur colère. Ils croyaient pouvoir compter sur leur parenté spirituelle étroite avec Jésus, Jésus fils de leur Dieu, lequel serait aussi son seul Dieu, et Jésus dément tout cela. Le Dieu qu'il a envoyé sur terre est tout autre, et il appartient comme lui à une génération tout autre, qu'il ne connaissait pas. Constatant leur incompréhension obstinée, Jésus détache Judas de leur cénacle, le sentant fondamentalement plus doué que ses collègues. C'est à travers lui qu'il tentera de les convaincre, par une relation souvent conflictuelle, qu'il s'efforcera cependant de ne pas interrompre. Le cénacle, de son côté, a exclu Judas de sa douzaine et l'a remplacé par un autre 12e plus docile. On peut dire que par ce premier acte, Jésus a cassé la routine qui faisait que, automatiquement, la nouvelle communauté qui s'était créée avec les 12 disciples et qui considérait que Jésus, dont il considérait que Jésus faisait partie, eh bien, cette routine est cassée et Jésus a rompu sa relation qui semblait être familiale. Chapitre 2. Jésus revenu, qui s'est éloigné, s'est revenu et est interpellé par les 12. Où es-tu allé? Quelle est cette génération forte et sainte que tu es allé rejoindre? Jésus leur répond qu'elle est radicalement différente de la leur. Elle leur est donc inaccessible, sauf à Judas, pense-t-il, et il laisse les 12 stupéfaits. D'autres gestes de rupture, le premier, c'est la rupture de la... De la relation entre lui et ses disciples, et l'autre, c'est la rupture de la cohabitation. Jésus ne cohabite pas avec cette communauté qui prétend être la sienne, il cohabite avec une autre communauté que les autres ne connaissent pas. Chapitre 3. Maintenant apparaît la première vision qui est présentée. Tourmentés, inquiets, les douze, sauf Judas, racontent à Jésus revenu leurs songes étranges, reflet d'une conviction religieuse très inquiète et inquiétante. Ils ont eu la vision d'une superbe demeure munie d'un grand autel auprès duquel s'affairent de nombreux dévots, encadrés par un sacerdoce important. Mais Jésus le leur fait avouer, ces prêtres souillent leur ministère par une vie morale scandaleuse. Ils recherchent la gloire humaine par des mortifications, des jeûnes exagérés, sacrifient leurs enfants et leurs femmes, pratiquent l'homosexualité, attentent à la vie humaine, tout en invoquant imperturbablement hypocrite le nom de leur Dieu. Et Jésus cherche à faire comprendre à ses disciples égarés et aux prêtres qui les encadrent que c'est eux qui, par leur fidélité mal placée, deviennent en fait ministres de l'égarement et font perdurer leur Dieu usurpateur, ce qui leur sera sévèrement reproché au dernier jour. Chapitre 4. Passage passablement mutilé, le dialogue se développe maintenant entre Jésus et Judas, qui, conscient de ses responsabilités envers les douze, maintenant qu'il devient lui dépositaire de révélations supérieures, cherche auprès de son maître des informations complémentaires. Quel fruit portera cette génération inférieure? À la fin de leur existence, l'esprit se séparera de leur corps, mais leur âme sera vivifiée, emportée en haut. Chapitre 5. C'est maintenant apparaît la vision de Judas veut à son tour raconter sa vision à Jésus. Persécuté, menacé de lapidation par les douze, il s'enfuit vers une grande maison, la grande maison des saints, dans laquelle il voudrait pénétrer en vain, car aucun mortel n'en est digne. Conclusion de Jésus à Judas, je t'ai dit les mystères du royaume. Chapitre 6, suite du dialogue entre Jésus et Judas. En substance, question du disciple préféré. Quel est mon avantage d'être séparé des douze? Réponse du maître, tu seras le 13e, le maudit, mais aussi le prince du reste des générations. Je t'apprendrai les secrets que nul n'a vus. Chapitre 7. Dès ici, Jésus aborde un thème sur lequel Judas est totalement incompétent. Le dialogue tourne au monologue doctrinal. Jésus dévoile à Judas, à ses yeux spirituels, la naissance par émanation de la cosmologie universelle. Chapitre 8. Suite et fin du monologue. Jésus présente à Judas les péripéties de la création de l'homme. Adamas est en tête de la procession émanation créatrice. Chapitre 9. Dès ici, reprise d'un véritable dialogue, Judas ayant quelques questions à poser, nécessaires à l'instruction de ses futurs élèves. Quel sera l'avenir de l'homme ainsi créé, complexe et mixte? La situation de son esprit et de son âme, leur rôle stellaire final, elle est baptisée. Quel sera leur avenir? Nuance et incertitude. Chapitre 10, dernier de ces chapitres intermédiaires. Fin du dialogue. L'exposé doctrinal est terminé et il restera à accomplir le passage à l'acte. L'acte suprême que Jésus attend de son disciple le plus fidèle, le plus discipliné. L'acte qui est en quelque sorte la passation des pouvoirs entre le maître et le disciple qui deviendra son successeur dès lors que le premier, libéré de son enveloppe charnelle, aura rejoint son peuple, la génération suprême dont il est issu. Répondant à une dernière question de Judas quant au rôle humainement scabreux qu'il devra assumer maintenant sous peu, la livraison que les témoins non instruits assimileront à une trahison scandaleuse, Jésus est catégorique. Les douze, tes concurrents, dit-il à Judas, tu les dépasseras tous, car l'homme qui est mon support charnel, tu le sacrifieras. Ainsi tout s'achèvera en apothéose de Judas, car désormais tout a été dit. Vois la fameuse nuée et la lumière qui est en elle, les étoiles qui l'entourent et l'étoile qui est le chef de file de leur cortège, de leur procession, elle, c'est ton étoile. Une lacune nous prive malheureusement de la déclaration céleste concluant ce chapitre et qui doit se trouver aux premières lignes de la page 58. Conclusion. L'évangile à la manière personnelle de l'auteur. Page 58, presque entière. Il n'est pas question, manifestement, cette conclusion dédramatise l'épisode de la livraison de Jésus par Judas selon les instructions données par le maître à son disciple et auxquelles Judas s'est strictement tenu, discipliné, agissant de sang-froid. Une livraison calme, paisible, raisonnée et non une trahison dont l'horreur serait tissée de sentiments tumultueux. En fait, une bonne nouvelle, signification première du mot Evangelion, la bonne nouvelle que Judas a voulu transmettre à son peuple égaré, que cette livraison salutaire pour l'humanité a été en tout un acte décent, positif. Là, il n'a pas été question d'insultes, d'avanies, de tourments atroces, de coups de fouet, de crucifixions sanglantes, d'inhumation d'un corps martyrisé suivi d'une résurrection charnelle et tout aussi matérielle. Il n'est pas question davantage du suicide atroce d'un Judas réduit à la repentance, broyé par son désespoir, horrifié par son acte. La gnose a éliminé tout ce fatras méprisable, grand guignolesque, dont se repaissent volontiers les couches populaires psychiques d'un christianisme de bas étage du point de vue gnostique. Le récit de la fin historique de l'histoire de Jésus en son ministère terrestre est réduit dans notre papyrus à sa plus simple expression, où il est aisé de lire maint détail entre les lignes ou même après la ligne finale. Jésus, livré pour une très modeste somme d'argent, livré sans cri et sans émeute, a sans doute été délivré ainsi de son corps charnel dans la dignité compatible avec son rôle, son ministère surnaturel, et cela sans souffrir. Il est retourné ainsi à sa gloire première. Judas, bien préparé pour son nouveau ministère pédagogique, souvent conflictuel auprès des douze, l'aura conduit avec courage et avec des succès divers, jusqu'au moment où l'un de ses disciples spirituellement éclairés aura pu à ses murs lui succéder, et ainsi de suite. Et tout cela sans mise en scène indigne, sans drame, n'est-ce pas? Et cette perspective finale, fruit de notre imagination, n'est-elle pas, somme toute, comme pour tout gnostique convenablement instruit, un précieux amen accordé à son attente?
Vous venez d'entendre la communication de Rodolphe Cazère, professeur honoraire de langue et littérature copte à l'Université de Genève, sur le thème de la traduction de l'Évangile de Judas.